Pâques est quand même une fête extraordinaire. C'est quand même la fête par excellence pour les chrétiens. Et ce matin, je voudrais simplement tourner autour de cette question, peut-être toute simple, mais qui est donc Jésus ? Alors, je pourrais dire des choses et des choses et des choses sur Jésus, mais ce matin, je voudrais dire trois petites choses sur qui est Jésus, en relation, évidemment, avec la résurrection, avec la fête de Pâques. Merci René pour ta présidence. Tu nous fais voir l'importance de Pâques, puisque à Pâques nous fêtons la résurrection. Et la résurrection, c'est l'événement par excellence, l'événement par lequel nous pouvons aujourd'hui avoir la vie. Et je voudrais apporter ma petite contribution donc avec cette petite question. Qui est Jésus ? Quel est ce personnage qui a fait couler tant d'encre à travers les siècles ? Personnage fascinant, on dit grand philosophe, on dit un grand homme qui est admirable pour les uns, et pourtant pour d'autres, c'est un personnage mythique, peut-être même imaginaire, inventé, peut-être même un imposteur pour d'autres. Jésus ne laisse personne indifférent. Rien à faire. C'est comme si on doit se bagarrer avec lui pour être clair avec soi-même. Ou alors, on est indifférent. Mais dans l'indifférence, on doit quand même justifier pas dans sa tête à soi-même. Oui, je suis indifférent parce que. Aujourd'hui encore, Jésus fait l'objet de l'attention des médias. Vous savez que dernièrement, ici, il y a eu la projection de la dernière tentation de Christ, je ne sais plus sur quelle chaîne, et la question qui a été développée dans la toile, dans les médias, c'était, est-ce que Jésus était-il vraiment marié ? Vous voyez, parce que dans la dernière tentation de Christ, on subodore l'idée qu'il aurait été marié avec Marie-Madeleine. Et donc, on commence à parler de ce Jésus marié peut-être. Vous savez que il y a eu plus de 31 films qui ont été faits sur la personne seulement de Jésus. Je ne parle pas sur le christianisme, là il y a des milliers, mais sur la personne seule de Jésus-Christ, sur un point précis qui concerne Jésus, il y a eu plus de 31 films. Le dernier, qui est sorti en février de cette année, aux États-Unis, s'appelle Son of God. C'est le fils de Dieu. Et C'est un film qui est déjà en train de devenir numéro un au box-office américain. Les gens se précipitent pour aller voir ce film-là. Il a même battu d'autres films qui étaient en lice avec. Les producteurs de ce film ont déjà récupéré tout l'argent qu'ils ont mis dans cette affaire. Mais pourquoi ? Pourquoi ce personnage est-il tellement fascinant, tellement intéressant ? Qui est donc Jésus ? Peut-être, je veux juste ce matin, que nous puissions peut-être retenir trois choses importantes qui vraiment marquent la personne de Jésus. Première chose, Jésus est Dieu fait homme. Nous allons voir une batterie de textes qui vont nous le montrer. C'est le miracle de l'incarnation. Tu peux mettre Matthieu chapitre 1, 23. Voilà là une annonce prophétique. L'annonce de qui a été déjà relayée que tu as. Ah, mais je n'ai rien ici chez moi. Il faut allumer. Le modernisme, je vous dis, et moi, c'est pas. Il ne veut pas. Je vois le bouton, mais il ne veut pas s'allumer. Bon, c'est pas grave, on va regarder là. Voici la Vierge sera enceinte. Ah, il ne veut pas. Ah! Vous voyez, je veux être gentil avec l'appareil, mais l'appareil me supplie d'être dur avec. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Dieu fait homme. Dieu lui-même l'a déclaré. Un disciple de Jésus va rendre ce témoignage, et vous connaissez, c'est Thomas qui va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. Thomas répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est l'homme qui avait dit « Ouh, moi, si je ne vois pas les signes de sa mort, je ne vous croirai pas. » Sous-entendu, moi, il est bien mort là. Il n'est pas ressuscité, arrêté avec ses blagues. Mais voilà que Jésus va apparaître et va lui dire « Touche maintenant, touche, regarde. » Et il saura, il va s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus est Dieu. Jésus, c'est Dieu fait homme. Le Dieu qui s'incarne dans une chair humaine pour venir nous rejoindre dans notre humanité. Moi, ça me frappe toujours. Lorsque Jésus dit qu'il choisit ses disciples, il dit qu'il les choisit pour être avec eux. Son but n'est pas nécessairement de les former d'abord, mais le relationnel est ce qui fait le but même pour lequel il vient nous rejoindre dans notre humanité. Il veut être avec nous. Souvenons-nous déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà voulu le faire. Au temps de Moïse, il a voulu construire le tabernacle. Mais les hommes n'ont pas du tout été au rendez-vous. Les hommes ont choisi le veau d'or. Le rendez-vous a été marqué, a été raté. Mais en Jésus-Christ, Dieu accomplit ce qui a toujours été cher à son cœur, nous rejoindre dans notre humanité. Être avec nous, vivre notre quotidien, partager nos pleurs et nos joies, être celui qui va nous guider, nous montrer le chemin. Étant celui qui nous a créés, il sait donc de quoi nous sommes faits et de quoi nous avons vraiment besoin. L'homme n'est pas en mesure de savoir toujours tout ce qu'il veut. Regardez-nous, regardons-nous en tant qu'homme. Combien de fois on ne se dit pas, mais je ne sais pas ce que je veux. Ou plutôt, quand je sais ce que je veux, mais je n'y arrive pas. Mais Dieu nous connaît, Jésus nous connaît. Et il vient nous rejoindre dans notre humanité. Et il vient nous parler avec simplicité, avec amour. Le Dieu de chrétien est un Dieu qui est unique. Il est différent des autres dieux. C'est le seul Dieu qui se présente d'une manière trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit. Parfois, mes collègues de cours de religion islamique me disent, nous avons le même Dieu. Allah et le Dieu des chrétiens, c'est le même. Je dis, oui, mais non, ce n'est pas le même. Nous nous arrêtons à l'Ancien Testament. Peut-être là, nous avions le même Dieu, peut-être. Mais notre Dieu n'est pas votre Dieu. Ce n'est pas le même. Parce que notre Dieu est un Dieu qui se manifeste en trois personnes. Or, vous n'acceptez pas cette trinité parce que vous considérez cela comme une tri-unité, trois personnes différentes. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Jésus-Christ vient à travers Pâques, nous pouvons nous rendre compte que Dieu nous a visités. Il s'est incarné. Il s'est fait homme pour venir nous rejoindre. Et lorsque nous fêtons Pâques, nous nous souvenons de cela, que nous n'avons pas été abandonnés à notre sort. René a parlé du péché. Il a dit, il y a là le problème du péché. Il y a là le problème de cet obstacle, de ce pont qui a été rompu, le pont relationnel. Le cordon ombilical entre Dieu et nous qui a été rompu. Mais Dieu vient relancer cela. Dans le texte auquel René a fait allusion, dans Luc au chapitre 24, vous voyez déjà les deux façons de présenter Jésus. Les disciples disent, Jésus, ce grand prophète qui fait des miracles. Et lorsque Jésus va commencer à parler de lui-même, il va dire, vous êtes gens sans intelligence, et il va dire quelque chose, il va dire, commençant par Moïse et les prophètes, il a parlé de tout ce qui le concernait dans les Écritures. Le concernait dans les Écritures. Parce que toutes les Écritures parlent de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Deuxième chose. Ce matin, je voudrais aussi que nous puissions aussi prendre conscience que Jésus est le seul sauveur du monde. Vous savez, le signe ictus, vous connaissez ce signe-là? Vous le voyez parfois derrière certaines voitures. Ça veut dire Jésus, Seigneur et Sauveur. Les chrétiens du premier siècle ne pouvaient pas comprendre autrement Jésus-Christ que de le comprendre comme étant le Sauveur et le Seigneur. Jésus est le Sauveur du monde. Dieu l'a envoyé pour sauver le monde. Jean chapitre 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Actes chapitre 4, verset 10, et puis le verset 12. Il dit, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Déjà, de son vivant, Jésus l'affirmait. Il disait, à Philippe notamment, il dit, « Mais nul ne peut aller au Père autrement que par moi. » Jésus est le seul Sauveur. C'est cela le but principal pour lequel Dieu a envoyé son Fils. C'est pour nous sauver. C'est cela le véritable sens de sa mission. Si la crèche était le point de départ de son aventure terrestre, eh bien la croix, c'est le point culminant de sa vie terrestre. Jésus, en mourant, il nous réconcilie avec Dieu, comme avait dit déjà ici René. La croix, mes amis, c'est là le point central de notre vie à nous, les chrétiens. C'est à la croix que tout prend sens pour nous. C'est à la croix que nous devenons véritablement les enfants de Dieu. Lorsque Christ meurt à la croix, lorsqu'il accomplit le sacrifice suprême. En ce temps de Pâques, on peut se rendre compte que si Christ n'était pas ressuscité, notre salut n'aurait pas été parfait, n'aurait pas été possible. Parce que la résurrection, c'est la preuve que le salut de Dieu a été, que le salut que Jésus a accompli a été parfait, a été approuvé, a été satisfaisant aux yeux de Dieu. Sauveur du monde. Ce matin, nous avons réfléchi pour savoir qu'est-ce que je fais du fait que Jésus est le Sauveur du monde. Ce n'est pas simplement Sauveur du monde dans le sens qu'il sauve l'humanité entière, mais c'est Sauveur aussi parce que c'est chacun de nous individuellement. La vie de Dieu, la rencontre que Dieu veut faire, est une rencontre personnalisée, de un à un. Ce matin, à travers la fête de Pâques, réalisons que Jésus est le Sauveur et le seul Sauveur, l'unique. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre solution pour être sauvé. Jésus nous délivre d'une mort grave, d'une situation inexplicable. Il faut pouvoir le comprendre. Nous étions vraiment mal barrés. Troisième chose que je voulais aussi que nous réalisions ce matin, c'est que Jésus est Seigneur et Maître. Première chose, Jésus est Dieu fait homme. Deuxième chose, Jésus est le seul Sauveur du monde. Quand je dis monde, je pense aux êtres humains, à chaque personne individuellement dans l'humanité. Troisième chose que je viens de dire maintenant, Jésus est le seul Seigneur et Maître. Un Seigneur, j'ai dû aller chercher un peu la définition de ce que c'est qu'un Seigneur. Un Seigneur, c'est un personnage important qui occupe une place de premier plan, qui a la suprématie et qui exerce une grande influence voire une domination. Un seigneur, c'est quelqu'un qui se distingue par sa noblesse, par sa supériorité vis-à-vis des autres qui sont en face de lui. Un seigneur et un maître, ce sont des mots qui sont ensemble. C'est celui qui a droit de vie et de mort, qui dispose de plein droit. Jésus est Seigneur. Actes chapitre 2, verset 36. Merci Simon pour ton boulot. C'était quand même des versets aujourd'hui. Hein. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Avec certitude. Pierre n'est pas en train de dire que vous soyez au courant, c'est une info, un scoop que vous devez savoir, juste comme ça, mais un scoop discutable. Non, il est sûr, il est certain, Jésus est Seigneur, que Dieu l'a fait Seigneur. Donc, Jésus en venant sur la terre, en mourant à la croix, c'est pas un homme faible. Ce n'est pas un aventurier, ce n'est pas quelqu'un qui vient essayer de faire quelque chose. Ce qu'il fait est une œuvre qui est assortie d'une promesse, d'une assurance qu'il est Seigneur. Et Jésus le disait lui-même. Qu'est-ce qu'il disait ? Ma vie, je la donne. Personne ne me l'ôte. Plusieurs fois quand ils ont voulu l'arrêter, il s'est passé des fois où Jésus s'est levé, il est parti, et ils n'ont pas su l'attraper physiquement. Quand le moment n'était pas arrivé, on ne pouvait pas l'arrêter. C'est lui-même qui dit, tu sais, lorsque un de ses disciples tranche l'oreille d'un des gardes du temple qui vient pour l'arrêter, il lui dit, tu sais, tu n'as pas besoin de faire ça. Je peux commander une légion d'anges. Et en deux temps, trois mouvements, tout ça, ça disparaît. Mais je donne ma vie. Je le fais volontairement. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur par la volonté de Dieu. Nous avons vu donc en Actes chapitre 2, on peut le voir aussi en Actes chapitre 10, verset 36, et puis après en Philippiens. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur envoyant la paix par Jésus Christ, qui est le Seigneur de tous. De tous! Aucun humain ne peut dire « Jésus n'est pas mon Seigneur ». Ouais, c'est comme avec le roi en Belgique. Je peux être belge et dire « Moi, je n'accepte pas le roi. Je ne veux pas du roi, moi. Je suis un républicain. Je veux que la Belgique soit... » Mais, et ça change quelque chose? Ça ne change rien. Il reste ton roi. Rien à faire. Il reste ton roi. Même chose avec Jésus. J'ai beau dire, oh, j'en veux pas moi de Jésus, mais il reste le Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui est Jésus? Existant en forme de Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas regardé comme proie à arracher. Je prends un autre texte. Hein. Je reste dans ce texte, dans cette traduction. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Vous suivez ? Dieu fait homme. Il n'est pas d'ici. Il vient du ciel. Et il a accepté de s'abaisser pour un temps. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La conséquence. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Soulignez le mot souverainement. Dieu a usé de sa position souveraine pour l'élever. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, engagé pour Dieu. Mes amis, non seulement il est le Sauveur qui nous donne cette possibilité d'entrer dans le lieu céleste, possibilité de pouvoir être réconcilié avec Dieu, possibilité d'être réconcilié avec nous-mêmes aussi. Parce qu'il y a un bout de nous-mêmes, il y a quelque chose en dedans de nous-mêmes qui reste affamé tant que nous n'avons pas rencontré Dieu. Pourquoi est-ce qu'un homme, un intellectuel athée, qui n'a pas du tout, qui n'a rien à voir avec le spirituel, comme André Marlowe pouvait dire, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas? Pourquoi pouvait-il dire des choses comme ça? Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ne pensent même pas aux choses spirituelles, avouent, reconnaissent qu'il y a quelque chose comme une envie de métaphysique, un besoin de transcendance, un besoin d'élévation, quelque chose qui dans l'humain est plus que l'humain, un appel à quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi? Parce que l'homme a faim de Dieu, parce qu'il y a quelque chose en nous qui appelle à l'éternité, rien à faire. On peut le nier, on peut le refuser. C'est quand même là. C'est quand même la réalité de nos existences. Sinon, on ne mettrait même pas au monde les enfants. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des enfants? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en penser qu'il y a des gens qui vont rester derrière nous si ce monde est tellement mauvais? Et il y en a déjà qui essayent de faire dire, oh, moi je ne veux pas d'enfants parce que de toute façon, ce qui est derrière nous, ce qui vient devant nous est tellement pire. Mais on continue à avoir des enfants. On continue à espérer que demain sera meilleur. On continue à croire encore en un monde meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin de transcendance, ce besoin d'élévation. Et ça, c'est une faim de Dieu que seul Jésus Seigneur peut combler. Jésus est le Seigneur. Il se rend obéissant. Il fait la volonté de Dieu et Dieu l'élève. Dieu l'élève. Dieu l'élève au rang du Seigneur des Seigneurs. Il ne lève pas simplement au rang d'un simple Seigneur. Il est au-dessus des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tout genou fléchit devant lui. Jésus est puissant. Puissant dans toutes les situations par lesquelles nous passons. Puissant pour nous répondre à toutes nos interrogations. Puissant pour résoudre tous nos problèmes. Puissant pour intervenir dans des choses les plus incroyables de nos existences. Puissant pour nous sauver. C'est Jésus lui-même qui affirme. Jean chapitre 13, le verset 12 et 13. Regardez ce que Jésus va dire. Il affirme qu'il est le Seigneur et Maître. Après leur avoir lavé, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il lui prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Regardez le verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur. Et que dit-il? Et vous faites bien, car je le suis. Il est seigneur. Il est le maître. Il affirme cela. À Pâques, nous réalisons ces trois facettes de Dieu. Trois facettes de Jésus-Christ. Il est Dieu fait homme. Il est le seul sauveur. Il est le Seigneur et Maître. Il est celui qui est là. Et ce que j'aime, mes amis, c'est que ce Dieu fait homme, ce sauveur, seul sauveur, et ce Seigneur et Maître, ce n'est pas une histoire que je vous raconte qui appartient au passé et qu'on peut dire aujourd'hui, ah oui, Jésus était merveilleux, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il a disparu, hein. C'est fini, hein. On en parle comme du passé, comme on parle de Bouddha, comme on parle de Mahomet, hein, c'est des gens bien, des braves gens, ben, ouais. Mais voilà, ils ne sont plus là. Apocalypse chapitre 1, verset 18, dernier texte de la Bible, dernier livre de la Bible. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le premier et le dernier et le vivant. j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Nous n'avons pas un Dieu qui est simplement là en disant, ok, il a fait des grandes choses, il était grand, merveilleux, beau, digne, etc. Non, il vit encore aujourd'hui. Cela fait toute la différence et toute la valeur du christianisme. Alors ce matin, je vais vous laisser avec cette réflexion. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais simplement vous laisser avec cette réflexion. Savoir que nous avons un Dieu qui est proche de nous. Un Dieu qui a des ressources. Et des ressources qu'il est prêt à mettre à notre disposition. Comment on va réagir? Comment on va faire? Est-ce qu'on va laisser toute cette potentialité passer à côté? Un peu comme le gars à qui on propose de l'argent dit, je te propose de l'argent. Non, 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 non. Par fierté, par orgueil, je ne touche pas cet argent-là. Et je crève de misère, mais je ne touche pas cet argent-là. Non, 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 non. Même si c'est un cadeau gratuit qui ne demande rien en retour. Où serais-je comme celui qui est ce mendiant, ce pauvre, qui a l'opportunité de s'en sortir de sa pauvreté et qui va saisir cela? Et nous les chrétiens, qui avons déjà compris tout ça, en réalisant la Seigneurie de Jésus-Christ, serons-nous encore en train de courir, chercher des solutions en dehors de Jésus, en train de vivre notre vie comme si Jésus n'était qu'une partie de notre existence? John Stott, qui a écrit un très très bon livre, c'est un deuxième bon livre. Le premier bon livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande, c'est « Disciples, une vie radicale ». Mais le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est « La foi évangélique ». Et John Stott dit une chose, c'est vraiment une révolte de sa part, il est vraiment révolté par ça. Il dit « Nous chrétiens, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire que Jésus est notre Seigneur. » Parce que si nous avions compris cela, notre vie de disciple serait une autre vie. On va vivre d'une manière radicale. Quelqu'un qui est sous la seigneurie d'un autre, eh bien, il se soumet absolument. Il reconnaît totalement la loi qui lui est imposée et la vit pleinement. Aujourd'hui, nous avons une spiritualité de façade. Elle n'a aucune profondeur. Dernièrement, on discutait encore avec je ne sais plus qui, et nous étions arrivés à la réflexion que nous sommes des chrétiens superficiels. On ne laisse pas la puissance de Dieu nous transformer. La parole ne vient pas sur nous, dans nos cœurs, pour nous changer. Nous gardons nos habitudes, nous gardons notre caractère. La Seigneurie de Jésus devait nous inciter à autre chose. Le salut qu'il nous offre devait nous apporter de la profondeur. Le fait qu'il soit venu habiter au milieu de nous devait nous donner une référence. Je ne m'avance pas dans ma vie comme un homme seul, abandonné à lui-même, livré à lui-même. Mais j'avance dans ma vie avec un compagnon de route, un ami, un Seigneur, qui est là pour me montrer ce que je dois faire et vivre. Réjouissons-nous, mes frères, et soyons aussi responsables de notre marche de la vie chrétienne. Merci beaucoup au Seigneur d'avoir permis que ce salut soit possible. Prions. Seigneur, merci pour le salut que tu nous as apporté. Oh Seigneur, je suis vraiment dans la joie et dans la reconnaissance. Merci Seigneur. Aide-nous à réaliser que tu es le Dieu fait homme, celui qui est venu faire son tabernacle parmi les hommes. Et je suis son temple. Je suis ce tabernacle, individuellement, mais aussi communautairement en tant qu'Église. Seigneur, aide-moi à le vivre. Aide-moi à réaliser que tu es le Sauveur. À la croix, c'est vraiment au prix d'un sacrifice extraordinaire que tu es mort. Que ça soit quelque chose que je puisse vivre d'une manière pleine, totale. Aide-moi à comprendre ta seigneurie, que cette seigneurie vienne influencer ma vie, vienne dominer sur ma vie, et qu'ainsi ma vie soit une vie radicalement attachée à toi. Merci Seigneur. Amen.